François Copé, conte tout simple, pilier de café. Pendant les 15 ans qu'avait duré son premier mariage, Madame Rapp n'avait pas eu beaucoup d'agréments, attendu que son mari, l'un des plus forts droguistes en gros de la rue de la Verrerie, passait par mauvaise habitude toutes ses soirées au café. Pas d'autres reproches à lui faire. Très bon commerçant, même un peu filou, ce qui ne gâte rien, Monsieur Rapp avait fait d'excellents coups dans les ricins et dans les cacaos, et la maison prospérait. Enfermé tout le jour devant le grand livre dans une cage de verre, au milieu du magasin imprégné de violentes odeurs, Madame Rapp avait la satisfaction de constater à chaque fin de mois un bénéfice considérable. Et comme le but de la vie, n'est-ce pas, est d'empiler des écus, cette femme de tête, cette correcte bourgeoise, rendait justice à son mari. Seulement, comme on fermait boutique à 6h30, qu'on se mettait à table à 7 et que M. Rapp, aussitôt après le dessert, prenait sa canne et son chapeau et ne revenait qu'à minuit du café du gaz, Madame Rapp, qui n'avait pas d'enfant, s'ennuyait ferme pendant les longues soirées et bâillait sur son tricot. Les dimanches et les jours fériés, le droguiste consentait à promener un peu sa femme dans l'après-midi, mais c'était tout. Aussitôt après le roquefort ou le camembert, monsieur filait au café comme d'habitude et laissait son épouse dans la solitude. À peine l'amenait-il deux ou trois fois par hiver à l'opéra-comique, selon le rite très rigoureusement observé par la bourgeoisie parisienne. Et encore, monsieur Rapp allait-il là comme un chien qu'on fouette. Madame Rapp était une personne incapable de trahir ses devoirs, mais elle ne pouvait se défendre d'une sourde irritation. Soyez donc une honnête femme, une associée utile et laborieuse, passez donc toutes vos journées dans une prison transparente, la plume à la main, à écrire des chiffres sur un gros registre, pour que votre mari vous en récompense si mal et préfère à votre société celle de 5 ou 6 videurs de boc, tout au plus bon, entre 2 parties de cartes ou de jaquets, pour prédire la chute du cabinet à brève échéance. Ce qui n'est vraiment pas malin, puisque la France s'offre en moyenne 2 fois par an sa crise ministérielle, à peu près comme les Anglais se purgent aux 2 équinoxes. Peu à peu, Madame Rapp avait pris en grippe son époux. Aussi, lorsqu'il mourut subitement, méfiez-vous de l'atmosphère surchauffée des estaminets en hiver, un chaud et froid en sortant et votre affaire est faite, lors donc qu'il mourut, sa veuve ne lui accorda qu'une quantité de larmes assez raisonnable et fut rapidement consolée. Elle avait de l'aisance, 20 000 livres de rente, sans compter la maison de commerce dont la vente produirait une forte somme. Elle venait seulement d'atteindre sa 36e année, et son armoire à glace lui présentait l'image d'une forte brune, encore appétissante, malgré son soupçon de moustache. Avant l'expiration du délai légal, Madame Rapp caressa le projet de se remarier. Or, le premier commis de la maison était un certain monsieur Rosier, bel homme, ancien sous-officier, avec cet air mauvais sujet qui plaît aux dames. Du vivant même de feu Rapp, la patronne, dans sa prison vitrée, regardait parfois avec bienveillance ce solide gaillard. Veuve, elle le considéra comme un parti très convenable. D'abord, plus besoin de vendre le fonds et de renoncer à des gains légitimes. Le commis était plus jeune qu'elle, soit, mais l'armoire à glace, la flatteuse armoire à glace, affirmait à la belle droguiste qu'elle pouvait encore être aimée. Et puis, voyons, Madame Rosier, cela sonnait mieux que Madame Rapp, et c'était la même initiale pour le linge et pour l'argenterie. 13 mois après l'enterrement du droguiste, où se remarquait une couronne avec ses inscriptions « Les habitués du café du gaz », la veuve convolait en seconde noce, et sur l'enseigne de la boutique, au-dessous de la mention « Maison Rapp », le peintre en bâtiment eut bientôt fait décrire « Rosier, successeur ». Tout marcha bien pendant les 3 jours de lune de miel à Fontainebleau. Mais dès le premier soir du retour à Paris, Rosier, après s'être levé de table, prit son chapeau et sa canne. « Où vas-tu donc ? » lui demanda sa femme alarmée soudain. « Mais je sors un instant pour prendre l'air, » répondit-il du ton le plus naturel. « Je vais faire un tour au café. À tout à l'heure. » et il ne revint qu'à minuit comme le défunt. Madame Rosier fut consternée. Elles allaient donc recommencer les interminables soirées d'ennui, de tricot et de solitude. Et le plus terrible, c'était que la malheureuse adorait déjà son mari, qui en matière de femme et d'amour s'y entendait singulièrement mieux que le sieur Rapp. Elle réprima son dépit, interrogea tout doucement son Achille. Il s'appelait Achille, au déjeuner du lendemain. « Tu vas donc tous les soirs au café ?» La réponse fut décourageante. « Sans doute, comme tout le monde. Le patron allait au café du gaz, moi je vais au café de la garde nationale. Tu sais bien, dans la rue de Rivoli, ils sont à une portée de fusil l'un de l'autre. » « Et vraiment, reprit-elle d'une voix altérée, tu n'aimerais pas mieux rester chez toi, auprès de ta petite femme ?»« Si fait, mais que veux-tu ? Quand je ne sors pas après dîner, je ne digère pas, je dors mal. Ah, je sais bien, oui, te tenir compagnie, ce serait bien plus gentil, mais tu as besoin de te coucher de bonne heure. Et je t'assure, c'est nécessaire, c'est même indispensable d'aller au café pour un négociant. On rencontre là des connaissances, on apprend des nouvelles, on fait des affaires, tout en battant les cartes. Et puis quoi ? J'en ai l'habitude. » Pour l'en guérir, elle essaya de tous les moyens. Elle le supplia et vit qu'elle l'importunait. Elle fit des scènes et sentit qu'elle allait lui devenir odieuse. Déjà la désunion s'introduisait dans le ménage, et Madame Rosier était folle de son Achille. Alors l'amour donna de l'imagination à cette femme positive. Qu'est-ce qui pouvait donc attirer ainsi les hommes au café ? La compagnie ? Le milieu ? Le décor ? Mais s'ils avaient tout cela au logis, pourquoi n'y resteraient-ils pas ? L'estaminer chez soi ? Telle était la question. Elle essaya de la résoudre. À force de prières, elle décida son Achille à passer quelques soirées à la maison avec ses camarades et elle s'ingénia pour qu'ils y trouvassent les voluptés spéciales qu'ils allaient chercher au café. L'appartement subit une transformation radicale. Le meuble de salon fut remplacé par des tables de marbre fixées au sol et par des banquettes de moleskine. Le gaz se substitua au carcel de famille et le piano fit place à un comptoir où Madame Rosier, coiffée et pommadée avec soin, trôna désormais entre des édifices de bols à punch et des trophées de petites cuillers. La salle à manger devint une salle de billard. L'établissement fut pourvu de tous les jeux de société et de consommation de premier choix. Il y eut des journaux fixés à des planchettes de bois. Enfin, tout fut étudié et pioché dans les moindres détails afin de donner une illusion complète. Madame Rosier, par exemple, obtint du domestique qu'il adopta la petite veste et le tablier blanc et qu'il laissa pousser ses favoris. Il apprit la mélopée particulière pour crier « Un boc à l'as !» attrapa le tour de main pour relever bruyamment la cafetière de métal quand le consommateur ne voulait pas de bain de pied. Et même, par un raffinement de couleur locale, il jeta deux ou trois fois par soirée des poignées de sciure de bois sous les tables. Tout d'abord, M. Rosier et ses amis applaudirent à ce beau trait de dévouement conjugal. Ils adoptèrent d'autant plus facilement cet estaminet privé que les rafraîchissements y étaient gratuits. Chaque soir, après le traditionnel et inoffensif doigt de cour à la patronne, en passant devant le comptoir, ils allaient prendre leur pipe au râtelier, s'installer et, tout en tripotant la dame de pique, blâmer les actes du gouvernement. Madame Rosier eut la joie de contempler de 9 heures à minuit le visage de son Achille, un peu voilé, il est vrai, par un nuage de tabac, et d'entendre sa voix bien aimée dire de temps à autre « J'en donne !» ou encore « Je coupe, et à tout. » La belle droguiste put alors se flatter d'avoir enchaîné son mari auprès d'elle, d'avoir fait de lui un homme d'intérieur, un gardien du foyer. Mais cette chimère dura peu. Au bout d'un mois, Madame Rosier s'aperçut qu'Achille s'ennuyait, éprouvait une tristesse, une nostalgie. Ses camarades aussi semblaient atteints de la même langueur. Quelque chose leur manquait, visiblement. Mais quoi ? Éperdue d'inquiétude et sentant que son rêve de retenir Achille à la maison allait s'évanouir, elle voulut s'expliquer avec lui, lui parla avec tendresse et bonté. Voyons, dis-moi franchement, n'est-ce pas chez nous comme dans un café ? Eh bien, non, répondit le pilier d'estaminet. C'est cela et ce n'est pas cela. Tu veux la vérité ? Eh bien, la voici. La bière manque de pression. Et dès le lendemain, abandonnant Madame Rosier à son désespoir, entre deux pyramides de morceaux de sucre, Achille et ses compagnons retournèrent au café de la garde nationale. Fin.